15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être. Tous les jours, nous vous recevons de 15h à 16h et le gros avantage, c'est qu'ici, c'est sans rendez-vous, bien sûr. Sans rendez-vous, on parle donc de vos petits et gros bobos et promis, on le fait tous les jours dans la bonne humeur. Je dis on, parce qu'il est là tous les jours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, notre docteur de choc. Bonjour Jimmy, vous allez bien, la santé, tout ça?
Bah, tout va bien, bonjour Mélanie, un plaisir d'être avec vous.
Docteur en forme, ça c'est le plus important.
Exactement.
Allez, on déroule le programme d'aujourd'hui. Notre grand dossier sera consacré à la déprime saisonnière. On va parler de ce coup de blues hivernal dont on peut tous être victime en ce moment, mais évidemment avec notre invité, le professeur Michel Lejoyeux, on ne va parler que de choses positives, de comment s'en débarrasser, de toutes les solutions, les astuces simples mais validées scientifiquement pour s'installer dans le bien-être et la bonne humeur. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de l'eczéma de l'enfant. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler d'un truc pratique, comment bien prendre son pouls. D'ailleurs, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? En fait, on vous dira. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de la libido féminine. Pourquoi, lorsque chez une femme, elle est très très forte, cette libido, on entend dire souvent qu'elle est nymphomane? Eh bien, elle nous décryptera tout ça.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première, c'est celle de Christophe, 44 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'ai un reflux depuis longtemps, je suis sous traitement, mais voilà, je voulais savoir s'il y avait des aliments qui existaient et qui étaient à consommer de préférence. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.
Alors, Jimmy, le reflux gastro-œsophagien, ce qu'on appelle aussi le RGO, je pense que c'est ce dont il parle Christophe aujourd'hui, sont ces brûlures dans l'œsophage, les remontées acides. C'est quelque chose qui est assez fréquent, qui est assez handicapant parfois. Mais rappelez-nous, qu'est-ce qui dysfonctionne finalement quand on souffre de ça?
Alors, à la jonction entre l'estomac et l'œsophage, vous avez une forme de sphincter qu'on appelle le cardiaque, qui est fait de fibres musculaires qui se contractent et qui agit comme système anti-reflux. Et ce qui permet à l'acidité contenue dans l'estomac qui sert à digérer, de ne pas remonter et d'éviter d'avoir ces brûlures. Lorsque ce sphincter dysfonctionne, pour quelque raison que ce soit...
C'est un clapet en fait, hein, c'est comme un clapet qui ne se ferme pas bien. Hein.
Voilà, par exemple, les bébés ont un clapet qui est immature, donc voilà. Ils ont plus de remontée acide et de reflux. Les femmes enceintes, sous l'effet des hormones, ont une action relaxante de ce sphincter, et parfois on a ce qu'on appelle une hernie, qui fait que ce sphincter est un peu béant, et bien à ce moment-là, on a le reflux, c'est douloureux, et c'est pas très agréable.
D'accord. Alors il l'a dit d'ailleurs, Christophe, il y a des traitements médicamenteux qui existent pour soigner ce reflux, mais est-ce qu'il y a des solutions aussi, c'est sa question finalement, dans l'assiette pour améliorer un peu ça?
Évidemment, déjà la consommation de café lorsqu'elle est excessive entraîne un reflux, donc diminuer cette consommation pourra déjà vous permettre d'aller mieux et peut-être de moins prendre de traitement. On parle souvent du chocolat, mais c'est pas vraiment prouvé.
C'est bon le chocolat,
mais, oui, mais apparemment ça donne du reflux. Ah, ouais. Les boissons gazeuses aussi, et l'alcool aussi qu'on oublie souvent, qui est pourvoyeur de reflux. Donc vous pouvez éventuellement aller mieux en diminuant tout ça, et puis éviter si possible les plats industriels, puisque forcément c'est un peu plus lourd, un peu plus gras, et donc plus difficile à digérer.
D'accord, et donc à l'inverse, est-ce qu'il y a des aliments qui sont à privilégier vraiment en cas de remontée acide fréquente comme
oui,
ça?
Oui, l'idéal c'est de manger des légumes, évidemment, et plus ils sont colorés,
bon,
mieux c'est.
Finalement, c'est bon pour tous les
exactement.
Légumes.
Exactement, ils sont riches en fibres, donc pour le transit c'est bien. On peut prendre des choux, des brocolis, du chou rouge,
ça, c'est
moment, la saison.
Ouais, bien sûr,
c'est riche en antioxydants, donc c'est protecteur pour les maladies cardiovasculaires. Et puis ça permet aussi de rétablir ce qu'on appelle le microbiote, donc cette flore digestive qui par la suite pourrait aussi peut-être à vous aider à digérer et à diminuer vos symptômes.
D'accord. Et j'imagine aussi qu'il faut conseiller peut-être de manger moins vite. Alors là, ce n'est pas les aliments en soi, mais manger vite, c'est pourvoyeur de reflux. Hein.
Surtout le repas du soir. Si vous mangez trop gras, trop lourd, alors que le repas du soir devrait être le repas le plus léger, ben évidemment que c'est pourvoyeur de reflux. Évitez de serrer trop la ceinture du pantalon. Évitez la sieste post-prandiale. C'est vrai qu'après manger, on a un petit coup de barre et on veut dormir. Et donc, le fait de fractionner son alimentation, de bien mâcher, de prendre le temps, de dormir en position un peu proclive à 30 degrés,
c'est-à-dire la tête un peu surélevée, en fait, pas allongée justement,
un peu surélevée, permet de diminuer ces symptômes et surtout de ne pas dormir trop tout de suite après avoir mangé, laisser au moins 2 heures le temps de la digestion et limiter la consommation d'alcool, vous verrez, ça ira nettement mieux.
Merci beaucoup Jimmy, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois c'est Axel, 48 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je vous appelle car après de longs mois de pause, je tente de me remettre au sport. Alors le souci, c'est que je n'ai du temps que le soir et du coup je me posais la question, quels sont les sports à pratiquer le soir? Et surtout, est-ce que c'est bien recommandé d'en faire après une journée de travail? Voilà, merci pour votre émission et j'attends votre réponse. À bientôt.
Alors Jimmy, vous qui êtes un grand sportif, est-ce que finalement...
Je sens un brin d'ironie, mais
non, pas du tout, avec une musculature pareille, j'imagine que ça vient pas tout seul. Moi j'aurais tendance à dire effectivement que le soir, de toute façon c'est mieux que jamais, mais bon, qu'est-ce qu'on en dit ?
Alors c'est vrai que c'est mieux de faire du sport, quitte à en faire le soir, mieux vaut en faire le soir que jamais, mais les études sont plutôt en faveur du sport plutôt le soir que le matin, alors qu'on aurait tendance à dire qu'il faudrait faire du sport le matin parce que l'organisme serait au repos, plus à même de répondre justement aux besoins et qu'on aurait de meilleures performances. Eh bien, il y a une étude, alors ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs études, qui montre que si on fait du sport dans les 4 heures qui suivent l'heure du coucher...
Qui précède
l'heure du coucher...
Parce que là, si vous revenez pour aller faire du sport...
Ça pose problématique. Dans les 4 heures qui précèdent le coucher, le sommeil ne sera pas altéré. Au contraire, on dormirait encore mieux car on augmenterait les phases de sommeil profond qui sont à ce moment-là plus longues et qui sont bénéfiques pour la récupération.
Mais ça, là, ces chercheurs, ils parlent de faire du sport 4 heures avant le coucher. Bon, globalement, je ne sais pas, vers 19h ou 18h, ça va. Mais est-ce que si on en fait vraiment une heure avant d'aller au lit...
Oui, forcément, ça peut poser problème. Ouais. Car qui dit activité sportive dit augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la température, de la tension artérielle, la sudation. Et donc, se coucher dans la foulée d'un effort très physique...
Un gros jogging, par exemple.
Peut-être un peu difficile, mais ce n'est pas non plus rédhibitoire.
D'ailleurs, vous disiez la température augmente. Mais est-ce que la température du corps, elle augmente en fonction du temps de la journée
aussi ?
Du temps,
du cycle. Au moment du cycle, ça varie chez une femme. Et puis, le matin, la température est plus basse 2 à 3 heures avant le lever. Elle augmente jusqu'à son maximum entre 17h et 19h, puis rediminue. Donc l'idéal serait faire du sport entre 17h et 19h, car finalement, c'est là où on serait le plus performant.
Bon, allez, 17-19, on y va tous. On va faire un petit jogging.
Vous me suivez.
Merci beaucoup, Jimmy. Non, j'irai toute seule. Je préfère, vous êtes trop fort. De toute façon, on dira jamais assez. Le sport, quelle que soit l'heure, c'est important. Alors, si vous aussi, comme Axel, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas. Nous y répondrons au plus vite. Europe 1. Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'eczéma chez l'enfant. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le professeur Michel Lejoyeux. Il est psychiatre et il va nous donner son ordonnance antidéprime. Une ordonnance sans aucun médicament, vous allez voir. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur et psychiatre Michel Lejoyeux, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une pathologie plutôt fréquente, l'eczéma. Et je crois qu'en plus, les parents... Alors l'eczéma, c'est l'enfant, justement. Et les parents, ils ont souvent du mal à traiter correctement, mais plus par méconnaissance, finalement, que de la maladie que par difficulté. C'est quoi l'eczéma, concrètement ?
Exactement. Alors l'eczéma, ou on appelle ça aussi la dermatite atopique, donc c'est très fréquent. C'est 10 à 20% des enfants et 4% des adultes. C'est la seconde maladie de peau la plus fréquente, juste après l'acné. Dans la majorité des cas, l'eczéma de l'enfant persiste à l'âge adulte.
Ah oui.
Donc il faudra se dire qu'un enfant qui fait de l'eczéma a une chance sur deux de le persister. Et c'est une maladie qu'on dit inflammatoire et multifactorielle. L'origine est immunologique, génétique, et c'est pour ça qu'on a souvent des familles avec des gens qui font de l'eczéma, et notamment de l'asthme, et environnemental, car le nombre de cas a doublé en 30 ans. C'est lié à une réponse inadaptée suite à une anomalie de la barrière de la peau qui ne joue plus son rôle de défense et par conséquent, elle est sèche et elle ne peut plus protéger du milieu extérieur. Et à ce moment-là, le système immunitaire surréagit et ça aboutit à l'eczéma.
Et comment on le reconnaît chez son enfant ? Bon, après, il faut évidemment consulter, mais qu'est-ce qu'il
doit y
faire penser ?
Il y a des signes assez caractéristiques. Le premier, c'est la sécheresse cutanée. Et ensuite, on a des enfants qui se grattent énormément, des démangeaisons. Les lésions, elles sont très caractéristiques. Avant un an, elle touche plutôt le visage, c'est-à-dire le front et les joues, les bras et le ventre. Après un an, les lésions changent et se trouvent derrière les plis, c'est-à-dire derrière le coude, derrière le genou, derrière les oreilles. Et puis, on a ces petites lésions qu'on peut trouver autour de la lèvre. On a l'impression qu'ils ont les lèvres gercées.
C'est vrai, autour de la bouche, comme ça, bien sûr.
Et puis, après 5-6 ans, les poussées, elles se calment. Mais l'enfant gardera une peau sèche et souvent, il y a un terrain allergique assez important avec de l'asthme ou des allergies saisonnières. Et surtout, lorsque les lésions ne sont pas traitées, elles aboutissent à de la surinfection.
Alors, comment on traite justement rapidement ?
Alors, la base du traitement, c'est lutter contre la sécheresse cutanée. C'est-à-dire qu'il faut hydrater la peau et entre deux périodes, c'est-à-dire soit on a une crise et il faut traiter plus de façon plus importante, soit une période d'accalmie. Et même dans la période d'accalmie, l'hydratation est le maître mot.
Donc, l'hydratation, toujours l'hydratation.
Exactement, avec des crèmes émollientes qui permettent de reconstruire la barrière cutanée. Elles permettent de limiter l'évaporation de la peau et la peau sera donc moins sèche, plus souple et mieux armés pour lutter contre les allergies et les infections.
Et quand il y a vraiment une crise là, d'eczéma très sévère, c'est un traitement plus fort, j'imagine.
Ils sont traités avec des dermocorticoïdes. Ces dermocorticoïdes permettent de calmer l'inflammation. Ils sont faits à base de cortisone. Ils calment les démangeaisons de l'enfant et ils sont appliqués une à deux fois par jour, de quelques jours à deux semaines. Et il ne faut pas avoir peur de la cortisone sous forme de crème. Elle entraîne quasiment jamais d'effets secondaires.
C'est pas les effets secondaires de la
voie orale.
Parce que
souvent, on pense que ça fait grossir, c'est pas la voie orale. Et surtout, lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, l'inflammation sera détruite par la cortisone et à ce moment-là, la cortisone ne passe pas dans le sang et à ce moment-là, la poussée passe et l'enfant va mieux.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invité du jour, le professeur de psychiatrie Michel Lejoyeux avec qui on va parler conseils et astuces anti-déprime. Il est l'auteur du livre « Révélez vos super-pouvoirs » publié au Livre de Poche.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Lejoyeux.
Bonjour.
Alors, avant d'entrer dans le concret de ce qu'on peut mettre en place pour éviter ou soigner la déprime, pour commencer, je crois que vous vouliez rassurer tout le monde et dire que finalement, déprimer, c'est normal.
Il y a deux choses différentes. La maladie dépressive, avec une perte d'envie, une culpabilité, une fatigue prolongée, c'est une maladie qu'il faut reconnaître, traiter, consulter. Et ça, c'est vraiment du champ de la médecine. Et puis, il y a ce qui est de l'ordre de l'émotion.
Le coup de blues.
Le temps est gris, il fait froid, vous n'avez pas tellement envie de sortir, vous êtes un peu fatigué. Cette émotion n'étant rien pathologique, c'est même un signe de bonne humeur. C'est ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'au fond, ceux qui n'ont pas d'émotion, on les appelle des alexithymiques, ils ne savent pas lire leurs émotions et ils ont un risque multiplié par deux, y compris de maladies cardiovasculaires. Donc vous voyez, c'est bon signe. Quand vous êtes quelquefois un peu de meilleure humeur et quelquefois d'un peu moins bonne humeur, c'est signe que vous êtes simplement un être humain ou une être humaine normale.
Jimmy.
Donc inutile de chercher à être tout le temps heureux et de bonne humeur.
Il n'y a que les robots qui soient tout le temps heureux et de bonne humeur. On est globalement heureux ou malheureux et le fait que l'humeur fluctue est un indice de santé. Être de très bonne humeur quand tout nous fâche à l'extérieur, c'est totalement pathologique. Donc, il faut faire attention à reconnaître les vraies maladies dépressives, évidemment les traiter, fatigue, ralentissement, perte d'envie, et là, on les traite. Mais les antibiotiques, c'est pas automatique. Les antidépresseurs, c'est pas automatique non plus. Oui. Ça ne sert à rien sur les émotions.
Très rapidement, je sais que vous dites que notre première arme, on va dire, antidéprime, c'est notre cerveau. Et pour ça, d'abord, il faut apprendre à se servir autant du droit que du gauche. Je savais même pas qu'il y avait deux cerveaux, en fait, mais il faut se servir de nos deux cerveaux pour aller bien.
Oui, alors c'est un peu métaphorique, mais on sait bien quand même qu'il y a une partie du cerveau qui est raisonnable, qui porte le langage, qui porte la raison, qui porte tout ce qu'on a d'organisé en nous. Et puis, il y a l'hémisphère qu'on dit mineur, qui va porter l'émotion, la musique, le sentiment artistique, l'amour. On a vraiment besoin des deux. Et on a besoin d'une petite zone dont on découvre l'importance, qui est la zone de communication entre les deux cerveaux. Tout se passe comme si nos deux hémisphères devaient se parler, communiquer pour qu'on aille bien.
Alors, professeur Lejoyeux, on va faire une courte pause. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, allez, ça y est, on passe aux conseils très pratiques, à toutes ces petites choses ou ces grands changements qu'on peut mettre en place dans son quotidien pour booster son moral. Et vous verrez, c'est surprenant, certaines astuces de notre invité s'inspirent de la préhistoire. Et oui, les premiers hommes avaient beaucoup moins de coups de blouse que nous. On vous dira tout, à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur et psychiatre Michel Lejoyeux. Alors professeur, parlons encore un peu de notre cerveau pour lutter contre la déprime. Vous conseillez d'activer notamment nos neurones miroirs. Alors moi, je ne sais même pas comment on peut commander ces neurones tout court. Mais alors, c'est quoi nos neurones miroirs, du coup?
Vous savez, c'est tout ce que j'appelle nos super pouvoirs. C'est-à-dire qu'au fond, c'était une expérience très simple où des scientifiques italiens enregistré l'activité cérébrale de singes et se sont aperçus qu'au moment où ils étaient partis manger, les zones cérébrales chez le singe qui attrape le sandwich et qui détermine la déglutition sont stimulées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est dans un environnement favorable, quand on est dans un environnement positif comme on l'est ici,
tout
quand on écoute votre émission, quand on entend des émotions positives, il y a une contagion. Et à l'inverse, si on n'écoute que des choses tristes, si on est entouré que de gens tristes, cette contagion émotionnelle peut se faire sur le mode de la tristesse.
Vous conseillez par exemple de regarder des photos de gens qu'on aime. Ça a l'air tout bête comme ça, mais ça fait du bien, c'est ça, c'est genre des petites choses qui peuvent marcher.
Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'on découvre aujourd'hui des centres cérébraux. Un, de l'esthétique. Quand on trouve quelque chose de beau, on stimule certaines zones du cerveau. Il y a même un travail coréen qui a montré que si on propose à des personnes de se concentrer devant une œuvre d'art qui leur plaît, ils avaient pris un tableau de Van Gogh, la cour de l'hôpital d'Arles. Vous concentrez pendant 10 minutes sur ce tableau, vous faites une expérience de pleine conscience, vous vivez l'instant présent et en plus vous stimulez une zone cérébrale qui est la zone de l'esthétique. Et puis quand on voit des photos de femmes ou d'hommes auxquels on tient, on va là aussi stimuler toutes ces zones cérébrales qui vont déclencher de la bonne humeur. Donc la mauvaise humeur, c'est vraiment pas une fatalité. On peut faire des petites choses, là encore, à condition de ne pas être atteint d'une maladie dépressive qui relève de mon collègue qui est en face de moi et qui donne des antidépresseurs.
Et du coup, on met des photos de moi partout à Europe 1, c'est ça en fait?
Oui, bien sûr, et comme ça on est heureux, bien sûr, j'en ai plein mon bureau.
Mais là, je vous vois tous les deux, je vous vois tous les deux et je suis parfaitement de bonne humeur.
Et donc, dans votre dernier livre, vous dites qu'il fallait s'inspirer de la médecine de nos ancêtres et que à l'époque de la préhistoire, on marche beaucoup et que de marcher beaucoup, ça fait pousser les neurones, ça développe l'activité cérébrale.
Ouais, vous savez, on a longtemps dit, pour aller bien, pour être de bonne humeur, il faut faire des exercices, ces exercices de gymnastique cérébrale où on reste assis à sa table, c'est terriblement ennuyeux. On s'est aperçu aujourd'hui que marcher 6 minutes dans le froid, c'est une expérience allemande, on a fait marcher des Allemands dans le froid pendant 6 minutes, on s'est aperçu qu'on augmentait de 30% leur fréquence cardiaque et qu'on augmentait aussi de 30% leur niveau de bien-être. Quand on va un peu plus loin, quand on le fait tous les jours, on augmente une molécule magique qui est le facteur de croissance des neurones. Donc les services de gériatrie le font de plus en plus. Plutôt que d'aller de se stimuler avec des exercices ingrats, on bouge et en bougeant, on développe objectivement un facteur biologique qui protège et pourrait même refaire pousser certains neurones.
Donc, 6 minutes seulement dans le froid, c'est rien. Jimmy a arrêté de scooter tout de suite. 6 minutes dans le froid, c'est tout.
Ce qui est dangereux quand le temps est mauvais, c'est la totale sédentarité. Vous voyez, ce qu'on risque en hiver, c'est peut-être les rhumes, mais ça vous ferait des émissions spéciales là-dessus. Mais ce qu'on risque surtout, ce sont les effets de la sédentarité. Quand, et c'est ça le petit défi de l'hiver, quand rien ne nous incite à bouger, quand il fait gris, quand le temps est tout humide ou froid, il faut quand même garder ce super pouvoir à notre portée qui est le pouvoir du mouvement.
Alors la préhistoire aussi, vous en inspirez dans votre livre, vous disiez qu'il y avait aussi quelque chose qui faisait à l'envers de nous, c'est-à-dire qu'ils mangeaient moins l'hiver que l'été. Et nous, c'est plutôt l'inverse. L'hiver, on mange des plats gras, chauds, des tartiflettes et tout ça. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire du tout pour être de bonne humeur.
Bah, l'idée est assez simple. Il faut manger en fonction de ce qu'on dépense. Et la journée d'été, vous avez été très active, vous avez été à la plage, vous avez couru, vous avez fait du sport et vous terminez votre journée avec une demi-salade sans assaisonnement. Alors que l'hiver, vous avez été totalement sédentaire et vous dites que pour vous reconstituer, il vous faut un bœuf bourguignon. C'est une totale aberration. La leçon médical simple, c'est qu'on mange en fonction de ce qu'on dépense. Et effectivement, en général, on se dépense un peu moins l'hiver, donc sortons du mythe qu'il faut l'été prendre beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, même s'il y a des tas de plats, beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, même s'il y a des tas de plats d'hiver, il va falloir les prendre très modérément, puis il va falloir aussi se nourrir l'été.
Professeur Lejoyeux, nous allons poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe à d'autres conseils anti-blues hivernal. La joie de vivre, la bonne humeur, ça passe aussi dans l'assiette contre la déprime. Manger des cornichons, de la choucroute par exemple, on vous dira pourquoi. Et puis on parlera aussi un peu de musique. Il y a un morceau de Mozart notamment. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Michel Lejoyeux, qui nous dispense aujourd'hui tous ces bons conseils anti-déprime. Alors, professeur, ce qu'on sait pas toujours, c'est que la bonne humeur, elle se passe aussi dans notre assiette, en fait. Notre tube digestif, qui est notre deuxième cerveau, en fait, joue beaucoup, en fait, sur l'humeur qu'on peut avoir ou pas.
Oui, alors, il faut se calmer. Il n'y a pas de médicament qui, au moment où vous les mangez, va créer un état d'euphorie. Mais on voit bien que les habitudes alimentaires déterminent la santé cardiovasculaire et elles déterminent aussi la santé des émotions. On s'est aperçu que certains aliments consommer régulièrement, qui sont plutôt des aliments qui vont faire travailler le tube digestif, hein, le cornichon, la choucroute, les yaourts, qui vont plutôt stimuler le microbiote, sont corrélés dans des larges populations à des niveaux plutôt inférieurs de déprime ou d'anxiété. Mais là encore, je ne voudrais pas aller vers le côté aliments, médicaments. Il y a une autre chose qu'on sait, c'est que les aliments très sucrés, ce qui va nous donner des pics de sucre, va vite être associé après la prise de sucre, à une hypoglycémie et donc plutôt à un sentiment de malaise.
Donc stop le sucre.
Pas stop le sucre, on va en prendre un petit peu, mais stop les grands shoots de sucre, notamment l'hiver, surtout si c'est dans un contexte de sédentarité. Donc nos super pouvoirs, ils sont là, mais à condition quand même qu'on ne les étouffe pas dans des aberrations alimentaires.
Mais vous écrivez que le sucre, ça nous rend plus conservateurs aussi, plus... un peu plus routinier, quoi. C'est bizarre, ça.
Oui, c'est étonnant. Alors ça, sont honnêtement des modèles animaux qui ont montré que si vous prenez des animaux de laboratoire et que vous leur donnez un régime très riche en sucre, ils vont perdre cette espèce de capacité à passer d'une activité à une autre. Donc, pas systématiquement du sucre, et là encore pas une fausse idée qui est que l'hiver ou l'automne sera un moment où on aurait absolument besoin de se jeter sur un chocolat le plus sucré possible.
Dimi ?
Alors vous l'avez dit tout à l'heure, mais même si c'est pas des aliments magiques et ni des médicaments, mais les cornichons, les choucroutes, la choucroute, ça jouerait sur notre humeur si on en mange un peu plus ?
Je ferai attention à ne pas déterminer une causalité. Ce qu'on a repéré, c'est une corrélation. Les gens qui ont une alimentation saine avec ces aliments qui font travailler le tube digestif ont globalement, je ne veux pas aller plus loin que l'étude qui est publiée, un niveau d'anxiété et de dépression inférieur. Il y a peut-être d'autres biais. Ouais, méfions-nous à ne pas ouvrir un bocal de cornichons comme on ouvrirait une boîte d'antidépresseurs. Par contre, il y a des petites choses qu'on sait. On sait que faire une expérience de pleine conscience devant un thé sur lequel on va se concentrer, avec peut-être des morceaux de fruits dedans, en prenant le temps de le préparer, en le buvant doucement, va absolument, avec le chaud de la boisson, vous faire une expérience de bonne humeur. Puis une dernière petite chose, quand vous tenez votre boisson chaude, quand vous avez vos mains autour du verre chaud, vous avez une vasodilatation des doigts. Cette vasodilatation envoie aussi un message positif au cerveau. Remarquez-le, quand vous attendez quelqu'un, vous l'attendez plus facilement avec une boisson chaude qu'avec une boisson glacée. Le temps passe plus rapidement avec une boisson chaude.
C'est vrai, le temps passe aussi plus rapidement avec la musique, on va en parler. La musique qui fait du bien à notre morale. C'est assez intuitif comme conseil, ça. On se dit, bon, je vais écouter de la musique que j'aime bien, ça va me rendre heureux. Mais il y a un morceau, je crois, dont vous en avez parlé dans ce livre, puis dans d'autres livres précédents. Il y a un morceau de Mozart qui a été identifié et qui a prouvé scientifiquement son efficacité sur notre morale. C'est la sonate pour deux pianos, Köchel 448. On va en écouter un petit extrait. Jimmy, ça vous rend heureux ? Vous êtes bien ?
Mais je suis toujours heureux avec vous, Mélanie. Tout va bien. Mais oui, c'est vrai que ça détend.
Alors moi, j'aurais pas choisi forcément celui-là. Dans la musique classique, il y en a d'autres qui me rendent plus heureux, mais plus heureuse. Pourquoi ce morceau, Professeur Le Joyeux ?
Celui-là a été testé. Une des choses qu'on sait aussi, c'est qu'il faut prendre la musique qui vous plaît. Si vous aimez le hard rock, on vous fera pas écouter du Mozart et vice-versa. Donc, une musique qui vous plaît. Deux, plutôt le soir. Trois, plutôt détendu physiquement. Et quatre, vous n'avez peut-être pas laissé assez de temps. Vous allez peut-être réécouter ce soir en se donnant 5 à 10 minutes. Là encore, le sujet est de se concentrer sur l'instant présent. On s'est aperçu d'une chose très amusante. Si on reprend quelque chose d'alimentaire, on vous fait manger une glace en même temps que vous écoutez cette musique. Si vous écoutez une musique qui vous plaît, et que vous êtes concentré, vous avez l'impression que votre glace est plus sucrée que quand vous écoutez une musique qui vous déplaît. Donc vous voyez, il y a tout un système dont on ne sait pas exactement aujourd'hui comment il fonctionne, mais qui peut nous fabriquer des émotions positives. Et il est vraiment à notre portée, puis ça ne passe pas par des médicaments.
C'est super. Jimmy ?
Alors, ce week-end, j'ai amené mes enfants dans la forêt. Mon aîné a appris à faire du vélo, donc j'étais très content.
Vous les avez ramenés après ?
Et oui, on les a ramenés, heureusement.
Je crois que c'était ça l'expérience.
C'est ça, l'expérience de bonne humeur.
Est-ce que la verdure, le fait de marcher en forêt, tout simplement, ça peut paraître trivial ? Est-ce que ça peut nous aider ? Et puis, si on ne peut pas avoir un petit bonsaï sur son bureau, est-ce que ça pourrait nous aider déjà à aller un peu mieux ?
Ah oui, alors, il y a plusieurs choses. Il y a une étude anglaise étonnante qui montre que plus vous habitez dans une rue où il y a de la verdure, sont des statistiques, hein, moins vous avez tendance à consommer de psychotropes. Alors, là aussi, il y a beaucoup de biais épidémiologiques.
Ouais, moi, j'habite juste à côté de deux forêts, donc je dois être hyper en forme.
Vous êtes en totale forme, je vois bien. Là, en plus,
j'ai arrêté de fumer, vous imaginez, voilà, vous savez, vous avez félicité tout à l'heure.
Ouais. Non, vous êtes formé, vous arrêtez de fumer. Alors, deuxième chose qu'on a découverte, c'est que quand on habite à des endroits où on va voir le ciel, voir du vert, ça fait du bien. Peut-être par un effet neurobiologique de ces couleurs qui vont avoir un effet de stimulation émotionnelle. Ça veut dire quoi en pratique? Très simplement, c'est la dernière partie de mon livre, je parle de l'alchimie. On peut faire des petites expériences d'alchimie cérébrale. Même l'hiver, on regarde un peu le ciel. Même l'hiver, on regarde un tout petit peu. Vous voyez, du bout de ce studio, là, je vois des très jolies feuilles qui sont en train de tirer vers l'ocre. Être capable de regarder un petit peu ces couleurs de la nature va envoyer un message positif au cerveau.
Il y a aussi des conseils plus difficiles à mettre en place, mais dont vous parlez dans votre livre, qui demandent quand même de faire peut-être un effort un peu plus important sur soi-même. Et c'est mettre fin à des croyances infantiles. Ces croyances infantiles du tout ou rien, ça veut dire quoi ça?
Oui, le tout ou rien, c'est l'objet de toutes les psychothérapies. C'est ce qui nous fait du mal. Soit la femme ou l'homme qui partage ma vie m'est totalement dévouée, totalement inféodée et totalement parfaite. Mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Soit je suis dans une totale rupture. Apprendre les nuances entre le tout et le rien. Apprendre qu'un ami, on peut le déranger quand on l'appelle. Apprendre que chacun d'entre nous peut, à certains moments justement, être de bonne ou de mauvaise humeur. Cette absence de penser en tout ou rien, c'est ça qui va nous permettre de nous améliorer. Oui, tous ces petits conseils qu'on donne, ceux qui pensent en tout ou rien se disent « Oh ben moi, je fais rien, parce que si on écoutait tout ce que disent les docteurs, de toute façon, on n'y arriverait pas. » Moi, je veux juste qu'en nous écoutant, peut-être en prenant le livre que j'ai fait, on pioche un petit conseil. Le plus facile, si on devait se rappeler de ce que dit Goethe disait « Si vous voulez écrire un livre très long et très compliqué, commencez par le chapitre le plus facile. Commencez par ce qui vous paraît le plus accessible, le reste suivra. »
Et puis l'hiver, il fait froid. Bon, ça, on n'apprend rien à personne, ça nous déprime du fait de la météo. Le fait de se cailler tous les matins quand on sort, ça ne nous rend pas très heureux. Mais vous dites que le chaud, c'est très important, mais pas juste le chaud. Le chaud, voire même le sauna. Ça, ces petits moments de très chaud, ça peut faire du bien.
Alors là, c'est une vraie étude qui vient de sortir dans une excellente revue nord-américaine qui a comparé chez des déprimés la prise d'antidépresseurs et 30 minutes d'exposition à une forte chaleur qui augmente la température du corps. Vous savez, on rigolait effectivement des saunas et des choses comme ça. Et cette étude, qui est toute nouvelle, hein, qui demande à être confirmée évidemment, mais montre que 30 minutes de chaud, ça a un effet équivalent à celui des antidépresseurs sur l'humeur, y compris chez des gens déprimés. C'est à confirmer, mais rien n'empêche d'ici là de s'offrir des petits moments de chaud qui vont nous permettre de résister à cette espèce de morosité un peu moite ou un peu fraîche de l'automne ou de l'hiver.
Merci beaucoup professeur Lejoyeux d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on est bien plus en forme, on a toutes les clés de la bonne humeur. Je rappelle le titre de votre livre, Révéler vos super pouvoirs, publié au Livre de Poche. Merci encore.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un geste pratique, prendre son pouls. Comment faut-il faire? Ça se prend où le pouls finalement? Et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose pour vous et moi? On fait le point dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors maintenant, on passe à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on a choisi de vous parler d'un truc pratique. Comment bien prendre son pouls? Savez-vous comment il faut faire? Où ça se prend finalement le pouls au poignet, au niveau du cou? Et surtout, à quoi ça sert finalement? Benjamin Lévesque, qui fait battre mon cœur, a été vous donner la parole sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
Tu peux prendre ton pouls au niveau du poignet.
Tu mets tes deux doigts juste en bas de la gorge à gauche, donc à ma gauche.
Moi, je le prends au niveau du poignet.
On va dire entre guillemets, en dessous des oreilles.
Et après, c'est mettre l'oreille contre le cœur, enfin voilà, les côtes de la personne, pour savoir si du coup il a des pulsations ou autre.
Je sais pas le prendre parce qu'il faut compter et faut réfléchir. Compter, non, c'est trop compliqué.
Je crois que tu calcules le nombre de battements à la seconde, enfin à la minute.
Dans ta tête, tu dois compter, je crois que c'est une minute.
Ça doit être à peu près 120 battements par minute pour un pouls normal.
En général, on prend le pouls d'une personne si oui, il a eu un accident ou autre.
Surtout après, quand j'ai fait du sport, des fois, je le trouve qu'il bat super vite. Donc du coup, voilà, j'essaie un petit peu de regarder et d'écouter surtout.
Si une personne n'a plus de pouls, c'est que c'est pas bon signe à proprement parler.
Alors, si quelqu'un n'a plus de pouls, c'est pas bon signe. On est d'accord, Jimmy.
Oui,
hein.
Mais d'ailleurs, c'est la base, ouais. Mais c'est la seule raison pour laquelle il faudrait prendre le pouls de quelqu'un.
Ouais.
Finalement, lors d'un arrêt cardiaque, c'est de vérifier le pouls au niveau du cou, le pouls carotidien. Et encore, on n'est plus obligé de faire ça. Mais sinon, prendre son pouls, on va en parler.
On va quand même en parler, puisque c'est l'objet de la chronique. Oui. Mais j'ai bien compris que vous alliez dire que ça servait à rien. Jimmy, donc ça sert à rien, mais comment on le prend, quoi ?
Alors, médicalement, ça sert à quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut mesurer ce qu'on appelle la fréquence cardiaque. Vous allez sentir, en mettant vos deux doigts au niveau de votre poignet, un flux sanguin passé.
Lesquels deux doigts je prends?
Alors,
déjà,
vous mettez l'idée. Alors, tous les pouls peuvent être pris. C'est-à-dire, ça peut être le pouls au niveau du poignet, sous l'aisselle.
D'accord.
On peut avoir au niveau fémoral, c'est-à-dire au niveau de l'aine.
D'accord.
Le pouls du zizi peut aussi être pris. C'est un peu plus difficile car les artères sont un peu plus profondes.
D'accord.
Mais c'est possible
partout,
aussi.
Partout, il y a une artère qui passe.
Vous pouvez sentir un pouls. Il suffit de mettre sa main sur une table, la paume ouverte, et avec les deux doigts de l'autre main, mettre au niveau de ce qu'on appelle une petite gouttière, c'est-à-dire en gros, on sent des petits tendons de part et d'autre du poignet, et vous avez, à ce moment-là, avec vos deux doigts, vous sentez un petit battement régulier qui frappe et qui détermine votre pouls. Attention, lorsque votre tension est inférieure à 9, si vous avez moins de 9 de tension, ce pouls est très difficilement perceptible au niveau du poignet. Et donc, à ce moment-là, on fait exactement la même chose au niveau de la carotide, c'est-à-dire au niveau du cou.
C'est sous la paume. Alors la paume d'Adam, on la voit, et c'est à peu près 2 cm sur le côté. Hein,
exactement,
c'est ça.
Que ce soit à gauche ou à droite, parce qu'on a deux carotides.
Oui, ça peut être de n'importe quel côté. Alors on obtient un chiffre, d'accord ?
Oui, et d'ailleurs, on
mesure sur quoi ? Sur 2 minutes, sur 1 minute, sur 30 secondes ?
L'idéal, c'est de savoir quelle est la fréquence cardiaque sur 1 minute. 1 minute, c'est assez long. Vous pouvez réduire ce temps à 30 ou 20 secondes.
Oui, 20, on multiplie par 3, et 30 secondes, on multiplie par 2.
Ah oui, vous avez fait.
Non, j'ai pas fait S, mais.
Je suis très impressionné. Mais il faut au moins, au minimum, 20 secondes, car si vous faites sur 10 secondes, ce n'est pas suffisant, et à ce moment-là, l'erreur est importante et on ne sait plus quelle fréquence cardiaque vous avez.
Bon, et grosso modo, entre 60 et 100, ça va au repos, c'est bien quoi.
C'est la fréquence cardiaque normale. Alors, vous l'avez dit, c'est au repos. Évidemment que la fréquence cardiaque est modulée par plein de choses. Elle est modulée par l'activité physique et donc, théoriquement, votre cœur peut battre jusqu'à 220 moins votre âge. Donc, je ne parlais pas de votre âge, Mélanie, mais moi j'ai 30 ans. Donc, 220 moins 30, ça fait 190. Donc, ma fréquence cardiaque maximum théorique, c'est 190.
C'est-à-dire
que lors d'un effort,
30,
moins
36,
25,
36,
ça fait...
36, allez, c'est bon.
Oui, ça fait 184.
C'est bien.
Voilà, donc c'est bien. Donc, ça vous donne la fréquence cardiaque théorique maximum.
D'accord.
Et puis, si vous êtes stressé, si vous avez mal, si vous avez peur... À ce moment-là, le cœur bat plus vite ou au contraire, il peut être un peu plus lent.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions. Bon, au final, pour nous dire que ça ne sert pas à grand-chose de se faire ça tout seul et qu'il faut aller voir un cardiologue, mais quand même, ça nous est bien utile. Merci beaucoup, Jimmy. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h. Et restez surtout, car juste après, il y a la chronique sexo. Celle-là, elle sert à quelque chose, vous allez voir. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question de la libido féminine. Pourquoi ? Lorsque chez une femme, elle est très très forte, cette libido, on entend dire souvent qu'elle est nymphomane. Elle va nous éclairer là-dessus, restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous avez passé un bon week-end ?
Excellent, délicieux, mais je suis ravie d'être là.
Bah c'est super. On va répondre à la question aujourd'hui que nous a posée Sylvie, 35 ans, je vous lis sa question. Mon compagnon dit que je suis nymphomane, au prétexte que j'ai une bonne libido. C'est vrai que j'aime faire l'amour et que je le sollicite beaucoup, mais pas non plus tous les jours. C'est un sujet de conflit entre nous, chacun épinglant l'autre. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, pourquoi dès qu'une femme a une libido débordante, c'est une nymphomane, hein, ça c'est clair. Enfin bon, en tout cas, c'est la question que nous pose aujourd'hui Sylvie. Un homme, lui, qui a une libido débordante, on dit que c'est un champion. Une femme qui a une libido débordante, c'est une nympho.
Alors surtout, il faut préciser ce que veut dire nympho. C'est-à-dire que dans l'esprit masculin, une nymphomane, c'est une femme qui a un désir débordant et qui est du coup presque épinglée, étiquetée, un peu comme la prostituée qui a besoin d'un tas d'hommes finalement pour assouvir ses désirs, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas de la prostituée. Donc en fait, la nymphomane, qui ne concerne donc pas manifestement
Sylvie,
c'est une femme qui est en difficulté quant à son identité féminine et qui a besoin de se chercher dans le désir de l'autre et le retour de l'autre désirant, et qui du coup est en désir, comme on est boulimique d'alimentation.
Donc c'est une maladie quand même, la nymphomanie.
C'est une souffrance narcissique, comme d'ailleurs, par exemple, la boulimie, c'est pour se remplir. Et bien là, c'est se remplir sexuellement. Donc ce n'est pas l'état d'équilibre de la sexualité, pas plus que ce n'est l'état d'un grand désir. C'est un grand besoin et une grande anxiété. Donc voilà, déjà,
on a la définition.
Les mots.
Jimmy ?
Mais c'est pas un peu bizarre au sein d'un couple que l'homme dise de sa partenaire qu'elle est nymphomane, il ne devrait pas être content, au contraire, qu'elle le désire et qu'elle a envie de partager des moments avec lui ?
Alors je pense que généralement, quand les hommes disent ah oui, ma femme, elle est complètement nympho, c'est plutôt pour se targuer
positif,
d'avoir une femme
ouais.
qui aime ça, contrairement à vous, monsieur, ou vous, monsieur, qui avez finalement des pisse froids. donc là, c'est plutôt, en général, dit dans ce sens-là. Mais manifestement,
là,
elle
c'est
doit
entre
pas
le problème. Ouais.
Elle doit pas le recevoir comme ça, parce que certainement, lui est en difficulté de désir, et qu'il est épinglé d'autant plus qu'elle en a. C'est-à-dire que finalement, ça peut passer inaperçu tant que l'autre est un peu chaud-froid, mais si elle est en désir, si elle le manifeste, si elle en a encore envie, il n'a pas le temps d'être à l'origine du désir qu'elle l'a déjà énoncé. Et c'est sûr que nombre d'hommes ne sont pas très à l'aise avec cette idée-là, puisque habituellement, c'est eux qui proposent et la femme qui dispose, et qui râle d'ailleurs le cas échéant si elle refuse.
Mais il aurait l'inverse, ce monsieur, le mari de Sylvie, le compagnon de Sylvie, une femme qui n'a pas de libido, il serait sûrement en train de râler aussi, de toute façon, on a l'impression. Enfin, c'est bizarre, je trouve, d'épingler son épouse pour un trop-plein de désir pour lui, non ?
Oui, un trop-plein ou un pas assez. Je crois que les couples ont besoin toujours de s'épingler sur quelque chose, enfin toujours, en tout cas souvent, de s'épingler sur quelque chose, pour témoigner en fait de leurs propres difficultés. Parce que quand on va bien, finalement, tout est possible. Du trop à certains moments, du pas assez à d'autres, et puis finalement, le couple fonctionne bien. On se croise, on se loupe, mais on se retrouve. Dès lors qu'on est en train de s'épingler sur le trop ou le pas assez ici, le trop, c'est qu'on est en difficulté avec soi, et du coup en difficulté dans la relation à l'autre. Et la sexualité devient, mais alors, la panacée pour se faire des reproches.
Jimmy ?
Mais rassurez-nous, c'est normal par moment qu'il y ait un des deux partenaires qui ait un peu plus ou un peu moins envie d'avoir des rapports. L'essentiel, c'est de trouver un équilibre sur le long terme. On n'a pas tout le temps envie de la même façon que son partenaire.
Oui, oui, on n'est pas du tout au même diapason. C'est toute la difficulté du couple. C'est que, évidemment, l'un est tout d'un coup très en émoi, et ça peut être stimulant pour l'autre qui le rejoint, mais il peut être tout en émoi tout seul. Et donc, du coup, il rencontre quelqu'un qui est préoccupé par les enfants, le travail, par une problématique familiale ou autre. Et donc, du coup, à ce moment-là, on se loupe. Mais c'est pas grave, dans la vie, c'est ça. C'est difficile d'avoir envie en même temps. Tiens,
c'est rare
là,
d'être complètement au diapason tout le temps, c'est impossible, même dans une vie de couple de plusieurs années. Ou...
Mais d'ailleurs, on l'est pas au diapason. La réalité, si là, je vous dis, ah, tiens, j'ai très envie d'aller manger un gâteau, vous n'aviez pas faim l'un et l'autre, et puis tout d'un coup, vous dites, tiens, c'est une idée.
Même, mais...
Oui, mais vous allez rejoindre mon idée, vous ne l'aviez pas nécessairement préalablement. Ou alors, vous n'avez pas faim du tout, mais par sympathie, vous avez dit, bon, allez, on y va. Ou au contraire, bah, t'es mignonne, mais tu y vas toute seule. C'est ça la vie, en fait. C'est qu'on n'a pas en même temps la même idée. En fait, c'est une idée que nous avons. L'amour idéal, c'est qu'on pense en même temps, on désire en même temps les mêmes choses. Et ça, c'est une illusion, parce qu'en fait, on voudrait retrouver l'état de fusion qu'on avait dans le ventre maternel, où tout se passait de concert. Eh bien non. Chacun a un rythme qui lui est propre, et toute la magie de la relation, c'est justement que l'on se croise ou pas.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller très rapidement à Sylvie, quand même, de se réfréner un peu ou pas du tout ?
Non, mais simplement de ne pas être anxiogène, parce que je pense que ce qui fait sa réaction, c'est parce que c'est un peu inquiétant pour lui. Et donc, du coup, se dire, mais c'est parce que tu es tellement irrésistible. Écoute, qu'est-ce que tu veux ? Comment tu veux que
avec
je résiste
humour, peut-être.
Un corps pareil, mais tu es un corps de rêve.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. On se retrouve bien sûr demain. Demain, dans son rendez-vous, notre grand dossier du jour sera consacré aux varices, un problème qui touche principalement les femmes, mais contre lequel il y a aujourd'hui de nombreuses solutions de traitement. On en parle demain. En attendant, je cède la place à l'équipée sauvage de Mathieu Noël. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, vous restez avec nous. C'est un personnage emblématique du PAF qui nous accompagne cet après-midi dans l'équipée sauvage. Michel Denisot, vous le savez, signe son premier film, Toute ressemblance, dans lequel il évoque les coulisses pas toujours reluisantes de notre milieu.
Beau programme, allez, bonne émission Mathieu, et vous restez sur Europe 1.